Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Animée par Pierre Darmé, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Je suis très heureux de vous retrouver avec cette émission car c'est pour nous, Natures urbaines pour les intimes, et pour nous, chères auditrices, chers auditeurs, la véritable rentrée après une pause prolongée. En effet, nous avons été bien occupés par d'autres émissions sur ces mêmes chaînes que vous pouvez d'ailleurs réécouter grâce au podcast. Je vous invite notamment à écouter le résumé du dernier rapport du GIEC par la climatologue Françoise Vimeux en dialogue avec le truculent biologiste Gilles Boeuf sur les liens entre climat et biodiversité. Alors pour cette nouvelle saison, nous adoptons également une nouvelle ambiance musicale. Merci à toute l'équipe technique et en particulier à Théo de l'avoir préparé et pour les visuels à Alexandre d'avoir officié. Aujourd'hui, c'est un nouveau format également avec une spéciale start-up. Alors pour lancer cette saison, j'aurais donc pu choisir le thème musical suivant. Cela aurait cependant pu être mal interprété si ce titre, surtout dans Nu, avait été diffusé en entier. Écoutez bien les paroles, vous, à tête reposée, vous verrez. Nous aurions pu rallumer la machine de manière plus sobre avec ceci. Let's get it started in here. Fameux titre des littéralement haricots à œil noir, les Black Eyed Peas. Finalement, nous avons conservé ce bon vieux Welcome to the Jungle des Guns N' Roses. Le nom de ce groupe et ce titre en particulier résonne pour moi comme un résumé de l'époque entre violence et douceur. Si j'ai cité les deux titres précédents, c'est évidemment en référence au vocable start-up. Mais vous le savez peut-être, j'ai un côté vintage et les deux invités qui sont déjà sur le plateau le savent et je m'amuse à trouver les équivalents français des mots emprunté à la langue de Shakespeare. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger la signification de ces anglicismes, parce qu'à force d'être utilisés, certains mots deviennent usés, vidés de leur sens. Alors au mot start-up, je vous propose, pour les à peu près 45 minutes qui viennent, de préférer le vocable certes suranné de jeune pousse. La pousse, voilà un mot du registre jardinier qui, convenons-en, se marie à merveille avec ceux de croissance et d'écosystème indissociables de la dimension économique dont nous parlons aujourd'hui. L'Académie française, et voilà qu'il y revient, nous dit qu'une pousse est le fait d'apparaître et de croître, la pousse des bourgeons, des feuilles au printemps, un arrosage régulier et une bonne exposition favorisent la pousse des plantes. Sous la coupole, il a également été indiqué jets nouveaux, branches ou feuilles nouvelles que produisent les arbres, les arbustes, les plantes ou les légumes à certains stades de leur développement, notamment au printemps. Le bouleau a déjà ses premières pousses. L'endive est une pousse de chicorée sauvage que l'on cultive à l'abri de la lumière. Et c'est là que les immortels en viennent au sens économique. Jeune pousse, entreprise de création récente, innovante et à croissance rapide. Et les lettrés d'ajouter une injonction qui semble tellement dérisoire aujourd'hui qu'elle ne peut que me faire sourire. Je cite, remarque, deux points, doit être préférée à l'anglais start-up. Ajoutons, avant d'en venir au fait que, comme la pousse d'un végétal, la vie d'une jeune entreprise n'a pas un parcours linéaire et nos invités pourront en témoigner. La pousse peut être freinée par de multiples aléas.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas ?
Avant de repartir de plus belle, en ayant parfois dû contourner un obstacle et même revoir son modèle, pour ne pas dire pivoter. Pensons aux arbres qui, gênés par un obstacle ou par l'ombre d'un congénère, se tordent pour accéder à la lumière. Eh bien, ces arbres-là ne sont-ils pas ceux dont l'on se souvient le mieux ? Il faut préciser aussi que certaines plantes, comme le camélia, ont une croissance rythmique. Elles poussent par flush, autrement dit, de manière intense, sur de courtes périodes, entrecoupées de pauses. Là aussi, une analogie est vite trouvée avec une activité saisonnière. Tiens, comme celle du jardinier, à vélo, pourquoi pas, ou à l'image de l'immobilier, d'activités dont le retour sur investissement requiert l'intervention du temps long. Enfin, démarrer, allumer le starter, c'est une chose. Encore faut-il durer dans le temps pour accéder au statut de licorne et prendre place avec ses congénères dans la grande forêt entrepreneuriale. Saviez-vous que le végétal se définit enfin par une croissance indéfinie ? Autrement dit, une plante a une vie éternelle. Alors c'est tout le mal que l'on souhaite aux jeunes pousses que nous allons découvrir ensemble. Mais avant cela, vas-y Théo, pousse le bouton.
Natures urbaines. L'interview. Première partie.
Après avoir fait vibrer vos enceintes, vos écouteurs et vos tympans, après avoir poussé le son, passons aux jeunes pousses. Et celles que nous recevons aujourd'hui sont au nombre de deux. Elles sont toutes les deux engagées pour des villes plus durables et ont un rapport fort, vous allez le voir, chacune à leur manière avec la nature. Mais surtout, ce sont deux pousses qui ont choisi à un moment de leur vie de pivoter. Ce sont deux entrepreneurs qui, sans récuser le terme de start-upers, ont à la fois l'énergie des créateurs et des développeurs et un certain recul, il faut le dire, par rapport aux codes, aux mots et aux modes parfois éphémères. Alors pour ces jeunes pousses, je lève mon pouce. J'arrête là le teasing pour ne pas dire en français le suspense. Nous recevons aujourd'hui Laurane Schied et Mathieu Aymin. Laurane, vous êtes fondatrice de LSRE. Bonjour Laurane.
Bonjour Pierre.
Et Mathieu, vous êtes fondateur de la première entreprise de jardiniers à vélo à Paris il y a 10 ans. Et plus récemment, et c'est pour cela que vous êtes ici, de Vélab. Et vous êtes par ailleurs, n'en jetez plus, président de l'association Les Boîtes à Vélo France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Pierre.
Alors je vous propose de commencer tout d'abord par vous, Mathieu, n'en déplaise à la bienséance. Après un parcours d'ingénieur à Agrocampus Ouest, vous débutez comme paysagiste concepteur à dessiner des jardins avant, il y a 10 ans, de vouloir mettre à nouveau, bien avant la crise de la quarantaine, que vous n'avez, je crois, toujours pas faite, les mains dans la terre. Alors, que s'est-il passé? Quel a été le déclic de la création de cette première entreprise?
Bah écoutez, simplement, j'ai commencé à travailler dans un bureau d'études. Je concevais des jardins pour un patron et je passais le plus clair de mon temps devant un ordinateur, un écran d'ordinateur. Et ça a commencé à me peser beaucoup et j'avais besoin de cette connexion avec le vivant et notamment les plantes. Et de trouver un peu de poésie, là, cette poésie que vous avez évoquée en début d'émission. Et j'ai décidé de devenir jardinier et de repartir de la base de ce que j'estime être mon métier à Paris. Et évidemment, de ne pas me retrouver dans une camionnette à la place de l'ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à vélo.
Et c'était donc en...
C'était en 2011-2012. C'est-à-dire l'âge de pierre du monde du vélo ouais. À Paris.
On peut dire que vous êtes un pionnier.
On peut le dire.
On peut le dire. Alors, question peut-être naïve, mais que peut faire un jardinier à vélo? Et est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de missions?
Un jardinier, déjà, c'est quelqu'un qui va entretenir des plantes, des jardins, qui va comprendre les modes de croissance et les interactions des végétaux. Et donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, un jardinier qui est aussi paysagiste va comprendre les compositions des jardins et va faire des allers-retours comme ça entre la bonne composition et la bonne plante au bon endroit.
Donc pour nos auditrices et nos auditeurs, le jardinier et le paysagiste, petite nuance, le paysagiste est plus dans la conception et le jardinier plus dans la réalisation. Et vous insistez, et c'est très important, sur l'entretien. On parlait de longue vie des végétaux et des jeunes pousses que vous êtes, mais aussi au sens propre, le bon soin du jardinier est essentiel.
Tout à fait. Et le rôle de base du paysagiste, c'est d'investir sur l'avenir en plantant les bonnes plantes au bon endroit. Et ensuite, le jardinier doit comprendre ces dynamiques-là. Et aller dans le sens du paysagiste. Parfois, corriger aussi les erreurs du paysagiste si lui-même n'est pas jardinier.
Alors, en 10 ans, cette entreprise qui existe toujours, hein, qui s'appelle Aymin Paysagiste.
Tout à fait.
Voilà. Quel type de mission, de travaux a-t-elle réalisé? Je crois qu'il y a des jardiniers, mais aussi des paysagistes. Vous concevez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, j'ai une petite équipe. Nous sommes quatre. Et on est tous paysagistes et jardiniers. Et ça, c'est super important pour nous, de pas sectoriser les métiers. Et ce qui fait qu'on touche à tout. Et notamment, on fait beaucoup de conceptions de jardins, de terrasses, sur Paris ou au-delà. Et également, on réalise les travaux de ces jardins et terrasses. Et nous faisons l'entretien. Donc voilà, vraiment un accompagnement complet des clients et des jardins eux-mêmes.
Alors... Revenons au mode de déplacement que vous avez choisi pour ne pas être non pas les yeux rivés derrière un pare-brise, mais bloqués dans les embouteillages. Si on reprend Joe Dassin, il nous disait « à Paris, à vélo, on dépasse les autos, et en vélo, dans Paris, on dépasse les taxis ». Qu'est-ce que permet le fait d'être jardinier à vélo? Quelles sont les contraintes et aussi les facilités? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Ce que ça permet, c'est déjà d'aller beaucoup plus vite dans les déplacements. Un vélo en ville va à peu près 30% plus vite qu'une camionnette ou une voiture. Ça permet d'être ponctuel, ce qui est quand même très bien pour les clients. Et ça permet aussi de se réinterroger sur son métier. C'est-à-dire que quand vous déplacez à vélo cargo, on en parlera après, mais le vélo cargo, c'est des vélos XXL avec un coffre devant, derrière, une remorque. Évidemment, vous êtes obligé de choisir les matériels que vous transportez. Et peut-être de le miniaturiser, peut-être d'avoir des matériels plus manuels, électriques, etc. Et ça vous oblige à vous reposer la question de vos pratiques. Et peut-être d'avoir des pratiques moins lourdes et moins violentes avec la nature, et plus dans le sens des dynamiques.
Alors, cette dynamique, grâce à cette nouvelle mobilité, cette mobilité douce, elle vous a donné un nouveau déclic, celle de créer une deuxième entreprise, qui, elle, vous allez nous l'expliquer, je crois, est centrée sur ces mobilités. Elle propose des solutions, et il s'agit de Vélab, créé il y a un peu plus d'un an.
Il y a 2 ans.
2 ans déjà.
On a créé Vélab avec mon associé dans le but d'accompagner les entreprises et les collectivités sur un changement dans leur mobilité, justement pour aller vers cette solution vélo cargo, et notamment on fournit des vélos cargo. Et pourquoi j'ai pressenti que ça allait être nécessaire, c'est que moi-même, en tant qu'utilisateur de vélos cargo, je m'adressais à des marchands de vélos, et ces marchands de vélos me proposaient les mauvais matériels parce qu'ils connaissaient mal ou parce que ce n'était pas encore très, très mature. Et derrière, pas de service. C'est-à-dire qu'ils attendaient que j'ai un souci avec mon vélo pour me dire, écoutez, là, mon atelier est plein, donc je ne vais pas pouvoir vous recevoir avant quelques jours. Et évidemment, pour un professionnel, c'est gênant. Et sur cette intuition et en voyant monter l'essor de l'usage des vélos cargo, on a décidé avec mon associé de créer une entreprise qui accompagne les autres entreprises de tout secteur sur cette dynamique avec beaucoup de services.
D'accord, donc c'est-à-dire qu'on peut aller chez vous acheter un vélo et vous nous dites que ce matériel est plus costaud que tout autre matériel chez un vendeur de vélo classique, quelle que soit la gamme qu'il propose. Là, on a un matériel professionnel qui permet de se déplacer et de déplacer des objets.
Tout à fait.
Vous offrez le service, vous proposez le service de maintenance, clé en main. On n'a pas à attendre une panne et ensuite avoir des très grands délais. Mais pour être plus précis, vous proposez aussi du conseil. Vous faites un diagnostic d'une flotte existante, des modes de déplacement. Comment ça se passe?
On fait, oui, effectivement, on fait notamment des audits pour comprendre les difficultés de l'entreprise et on leur propose des solutions. Et le vélo cargo va apporter des solutions dans certains cas et pas dans tous. Évidemment, les entreprises qui ont des secteurs géographiques d'intervention très larges, on va évidemment concentrer les usages vélo cargo dans les centres-villes, dans les endroits où il y a un souci avec la mobilité. On va également proposer des sessions de découverte pour les entreprises et pour les salariés pour peut-être battre en brèche certains a priori qu'on peut avoir sur le vélo. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les vélos qu'on propose sont motorisés, donc il n'y a pas vraiment une pénibilité. Et le fait d'essayer déjà change le regard. Et on les accompagne jusqu'au bout et jusqu'à divers services que sont l'assurance, que sont le tracking des vélos, et l'entretien, l'assistance en cas de souci.
Et aujourd'hui, qui sont, vous dites que c'est tout type d'entreprise, donc c'est une activité B2B. Oui. Quel type d'activité vous avez parmi vos clients, pour donner des exemples pour nos auditrices et auditeurs?
La majorité de nos clients aujourd'hui sont des entreprises de logistique, donc des livreurs, des coursiers, ces fameuses personnes qui vous livrent vos colis Amazon. Qui ne peuvent plus se déplacer en camionnette et qui évidemment choisissent le vélo et poussés aussi par un changement des mentalités, par une demande des maîtres d'ouvrage, etc. Et puis au-delà de ces entreprises de logistique, vous avez tout un tas d'entreprises d'artisans qui interviennent en centre-ville et qui, notamment pour des opérations de maintenance, n'ont pas besoin d'énormément de matériel et qui peuvent choisir ces vélos cargo. Et là, vous avez tous les métiers d'artisans et de services, que peuvent être les plombiers, les électriciens, etc. Ou les métiers de bouche également, vous avez des boulangers, des pâtissiers, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question.
Si, on a quelques exemples, on s'imagine bien. Voilà, donc il peut y avoir des indépendants aussi qui travaillent pour des plateformes, ou c'est toujours des entreprises établies qui font appel à vos services ?
Non, on travaille surtout avec des entreprises établies, ouais. Sur des projets sérieux. On parle quand même d'investissement de l'ordre de, par vélo, de 7 000 à 12 000 euros, mmh. avec tout un tas d'aides, et notamment une aide récemment voté et mise en application au niveau national de 1 000 euros par vélo cargo. Donc ça commence à peser, plus des aides locales. Et par exemple, à Paris, depuis déjà maintenant plusieurs années, il y a 1 200 euros de subvention sur l'acquisition d'un vélo cargo pour une boîte.
Alors, vous avez parlé de l'impact en matière de ponctualité. Je devrais prendre plus souvent le vélo cargo. Ça fait sourire probablement Laurane, qui me connaît de ce point de vue-là. Il y a aussi probablement un sujet d'impact carbone. Est-ce que ça fait partie des arguments qui sont avancés par vos clients aujourd'hui ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est un plus, mais c'est pas forcément ça qui les fait passer au vélo cargo. Ce qui les fait passer au vélo cargo, c'est vraiment déjà l'air du temps. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus contourner. Et le gain de temps. Et le gain de temps, il est de l'ordre de 30% en ville. Faut savoir qu'une voiture, si vous rentrez un trajet sur votre application de guidage, vous aurez certainement une statistique sur combien de temps vous allez mettre en voiture. Et puis à côté, vous allez voir combien de temps vous mettriez en vélo. Et déjà, vous apercevez que vous gagnez beaucoup de temps à vélo. Mmh. Mais ce dont ne tient pas compte l'application, c'est qu'au-delà de ce temps de trajet, vous allez avoir un temps de recherche de place de stationnement. En voiture. Il faut savoir qu'en ville, 30% de la circulation est due à la recherche de stationnement. Donc tout ça montre la
tout ça, mi bout à bout, on gagne beaucoup de temps.
Et sur l'aspect écologique, un vélo cargo est à peu près 30 fois plus écologique qu'une camionnette électrique. Mmh. Donc, quand on dit la camionnette ou la voiture électrique est la solution... Je dis oui, pourquoi pas pour des déplacements longs, mais absolument pas pour des déplacements courts, de l'ordre de 5 à 10 km. Le vélo sera toujours beaucoup, beaucoup plus écologique.
Alors, vous le disiez, ça oblige à repenser le vélo, la manière dont on exécute son métier, peut-être à transporter moins de choses, à le faire différemment. Pour donner un ordre de grandeur, quel est le volume qu'on peut transporter et puis quelles sont les contraintes ? Puisque c'est un vélo à assistance électrique, il faut pouvoir recharger la batterie et puis il tient de la place. Comment est-ce qu'on fait pour se garer ? Est-ce qu'il y a des contraintes comme ça ?
Alors, en ce qui concerne le volume de chargement, on est de l'ordre de jusqu'à 1,5 m³, jusqu'à 200-300 kg. Et pour ce qui est du stationnement, aujourd'hui, il y a un laisser-faire qui est de pouvoir stationner les vélos déjà dans les cours d'immeubles. De pouvoir les stationner sur les trottoirs, c'est autorisé. Les vélos ne sont pas immatriculés, donc on ne peut pas avoir d'amende, ou alors vraiment il faut faire des grosses infractions pour qu'on vienne nous embêter. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, évidemment. Ça veut dire qu'il faut bien utiliser les pistes cyclables, bien utiliser les aménagements. Mais aujourd'hui, il y a des facilités à l'usage qui sont vraiment super intéressantes, et notamment... Voilà, pas de recherche de place de stationnement. Quand je suis venu ici à la mission, je me suis pas dit tiens, je vais venir en avance parce que ça va être une galère. Je suis venu pour 10 heures, qui est quand même pas une heure géniale pour venir en centre de Paris, et j'étais absolument pas stressé.
Eh bien, ça se voit, vous êtes détendu, Mathieu, et vous êtes tellement détendu que, non content d'avoir votre propre entreprise, vous avez pris la présidence des Boîtes à Vélo France. Alors peut-être que par ce prisme-là, vous pouvez nous dire dans quel type de ville, on a parlé des grandes agglomérations, mais peut-être en citer d'autres, on peut développer ce type d'activité et ces mobilités, dans quels endroits est-ce qu'elles sont les plus pertinentes, et puis aussi quelques chiffres ou en tous les cas indications sur les potentialités de ce marché, si on parle en langage économique.
Alors, pour répondre à la question des villes, de fait, toutes les grandes villes ont une association boîte à vélo. Mmh. Les boîtes à vélo, ça regroupe les entrepreneurs à vélo, et y compris entrepreneurs, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes. On est à peu près 250 adhérents en France, répartis dans les villes, mais pas que, aussi dans les petites villes, ou voire en zone rurale. La potentialité, en termes d'adhérents, elle est au moins de deux fois supérieure. Mais le potentiel global du vélo cargo en ville, il y a une étude européenne qui a mesuré, sur la base d'une étude sérieuse, que 30% des déplacements urbains professionnels pourraient être réalisés à vélo cargo, ce qui représente énormément de déplacements. Donc le potentiel est gigantesque. Le marché est en plein essor et en pleine explosion. Donc, a priori, l'avenir sera radieux pour Vélab et pour les boîtes à vélo.
Alors, avant de laisser la parole à Laurane pour un petit regard sur cette expérience-là, dernière question qui appelle une réponse courte, parce que nous sommes toujours trop bavards et le temps file. Dans le développement de Vélab, justement, quels seraient les freins à lever? Et si vous aviez... une étape supplémentaire de votre développement, quelle serait-elle?
En ce qui concerne Vélab, l'important, c'est d'arriver à se structurer au niveau ressources humaines. Et les freins...
Donc ça embauche chez Vélab.
Donc ça embauche, oui. Voilà. D'ailleurs, je passe un petit message.
Ah, c'est l'occasion de le faire.
On cherche un responsable des ventes B2B et puis très certainement bientôt de nouveaux mécaniciens, parce que clairement, il y a ce besoin. Mais ce qui peut être les freins au développement globalement du vélo cargo, c'est toujours des mentalités qui s'accrochent à un modèle qui, a priori, est dépassé. Et si j'ai un message à faire passer, c'est essayons de vivre avec notre temps et adaptons-nous. Et vous verrez que, pour tous les sceptiques, vous verrez que votre vie ne sera que plus belle à utiliser la bicyclette.
Alors, la bicyclette, je ne sais pas si vous la pratiquez, Laurane, mais vous n'êtes pas du genre sceptique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, je trouve la démarche de Mathieu très, très intéressante. Déjà, c'est toujours agréable de rencontrer des nouveaux acteurs de l'écologie, voilà, quel que soit le corps de métier. Et au-delà du sujet de mobilité qu'il a réussi à combiner au paysage et au volet jardinier, je trouve très intéressant d'avoir des paysagistes aujourd'hui qui sont jardiniers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans mon métier, est assez rare et très important. Et donc, c'est ce type d'entreprise que je privilégie dans mes projets aujourd'hui.
Eh bien, voilà, le nouveau teasing est fait pour la deuxième partie qui va venir, mais tout de suite, un jingle.
Natures urbaines, le choix musical.
Et Guns N' Roses vibre à nouveau dans les casques, dans vos tympans et dans vos écouteurs, vous qui êtes dans le métro ou sur votre vélo, qu'il soit cargo ou non. Nous avons choisi pour cette émission une chanson des pierres qui roulent, les Rolling Stones, intitulée « Donne-moi un abri », hommage à Charlie Watts. Et oui, la chronique nécrologique a toujours et aura toujours droit de citer dans l'émission du vivant. J'y tiens. Et c'est aussi un clin d'œil à un, je cite, prêtre admiré, ou plutôt un prêcheur de science vénéré, inconditionnel des Stones, et en particulier de Keith Richards. J'ai nommé Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, qui officie sur l'antenne non pas de NU, mais de France Q. Avec feu la conversation scientifique qui s'appelle maintenant Science en question. Alors, monsieur Klein, merci encore de m'avoir fait l'honneur d'un joli anagramme de mon nom à la suite de notre rencontre fortuite et distanciée en plein cœur de l'été. Et c'était près de la mer de glace à Chamonix. Cet anagramme, je l'ai cité ici sans le souligner. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, à vous de le retrouver. Monsieur Klein, je nourris l'espoir ici de vous recevoir. L'invitation est officiellement lancée. En attendant, give me shelter. Thank you.
Cultures urbaines. L'interview. Deuxième partie.
Retour sur le plateau de Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville sur Radio Imo et Radio Territoria, en compagnie de Laurent Schied, fondatrice de LSRE, et de Mathieu Hémin, jardinier paysagiste à vélo, qui est également le fondateur de VLAB, entreprise de solutions de micro-mobilité. Alors ce sont deux jeunes pousses qui ont les pieds dans la terre et sur terre, la tête dans les nuages et le regard tourné vers la ville. Reprenons Guy Michelter, cette chanson finalement assez pessimiste, mais qui se termine par cette jolie injonction « Kiss away, embrassez-vous ». Eh bien, vous le ferez après avoir écouté la deuxième partie. Alors, Laurane, maintenant, c'est à vous de passer sur le grill, mais un gentil grill, on est plutôt en mode barbecue ici, hein, puisque, en faisant attention à la provenance du charbon, évidemment, mais on est détendu, on est dans le jardin. Nous allons poursuivre avec votre parcours. Après des études en sciences politiques, vous avez été attaché parlementaire, avant d'entrer à la compagnie de Phalsbourg, où vous avez dirigé l'équipe hôtellerie et nouveaux concepts. Vous avez en particulier eu la charge des réponses aux appels à projets. Et en avril 2020, un moment privilégié pour se lancer dans l'entrepreneuriat, durant le premier confinement, ce n'est pas Paris que vous réinventiez, mais votre parcours et je crois même un peu votre vie. Vous avez créé à cette époque LSRE, Laurane Schied Real Estate, je le dis avec l'accent. Alors, première question tout d'abord, pourquoi avoir choisi l'immobilier, voilà maintenant un peu plus de 10 ans ?
Alors, moi je me suis retrouvée dans l'immobilier il y a 10 ans, un peu par hasard. J'étais d'abord rentrée à la compagnie de Phalsbourg pour m'occuper des relations avec les élus. Ce qui, en raison de mon parcours politique, était quelque chose de très facile pour moi. Et puis, très rapidement, j'ai appris beaucoup. J'ai appris ce métier, qui est un métier de bâtisseur, que j'ai aimé. Donc, j'ai voulu l'explorer de façon un peu différente en créant ma société l'année dernière. Pendant le Covid, je me suis un peu réveillée, comme beaucoup de gens. Et je me suis demandé comment j'avais envie de faire ce métier. Et est-ce que j'avais envie de le faire pour moi ? Et la réponse était oui. J'avais envie de travailler pour mes propres désirs et pour ma propre vision de l'immobilier, qui était celle d'un immobilier totalement écologique, qui pouvait du coup répondre à l'urgence climatique que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai créé LSRE il y a un peu plus d'un an, et qui a vocation à faire de l'immobilier écologique, responsable, plus conscient. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On entend beaucoup parler d'écologie dans l'immobilier. Le sujet, c'est de cesser d'en parler et d'être vraiment dans l'action. Alors aujourd'hui, on en parle, évidemment. La communication, c'est important, mais ça n'est pas tout. Et donc le sujet dans ma société, c'est de faire et de donner à voir des projets qui sont des projets exemplaires. Comment ? En faisant écologique. Écologique, ça veut dire, pour moi, remettre du bon sens là où il n'y en a plus dans ce métier. On parle beaucoup de labels, on parle beaucoup de certifications, et de ce fait, on parle souvent d'écologie dans l'immobilier en ce moment. Et moi, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de plus écologique, c'était de faire local. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors, c'est valable dans l'alimentaire, c'est valable même pour les essences, hein, quand on fait du paysage, et c'est valable dans le textile, en fait, c'est valable pour tout. Je pense que ce qu'il y a de plus écologique, c'est à la fois de faire local et à la fois de recycler ce qu'on a déjà. Donc c'est mon parti pris. Mon parti pris, c'est de regarder le territoire dans lequel je m'inscris, de regarder quels sont les matériaux locaux qui existent, quels sont les matériaux naturels présents, biosourcés, d'exclure totalement le béton de mes projets, et de recycler le plus possible. Lorsqu'on peut le faire, lorsqu'on ne peut pas le faire, c'est OK, mais quand on peut le faire le plus souvent possible. Et de faire des projets qui vont du logement à l'hôtellerie, de faire du 4 étoiles en hôtellerie, mais aussi du logement social. Et donc de montrer qu'on peut faire de l'écologie pour tous, et que ça n'est pas un sujet de snobisme, ça n'est pas un sujet de tendance, ça n'est pas un sujet bobo, comme je l'entends souvent, que l'écologie aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui concerne le vivant, et donc qui nous concerne.
Alors vous mettez le mot qui va bien, et j'étais certain que vous ne seriez pas langue de bois. On va y revenir d'ailleurs sur le bois dans une prochaine question. Un an, c'est très court pour une entreprise d'immobilier. Néanmoins, vous avez d'ores et déjà initié des projets. On a vu passer quelques images d'une barge habitée sur la Seine, je n'utilise pas le bon terme, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que vous avez initiés oui. depuis un peu plus d'un an ?
Alors moi, comme je ne fais pas des t-shirts ni des glaces, souvent on me dit « mais qu'est-ce que tu as déjà fait ?» Malheureusement, moi, je fais de l'immobilier.
Exactement.
Et l'immobilier, c'est un métier de patience et de temps long. Donc évidemment, je n'ai pour l'instant rien fait, sinon ça aurait été avec, avec des Mikado ou bien des Capla. Mais évidemment, rien n'est sorti de terre pour l'instant. On est dans ce qu'on appelle une phase de développement.
Voilà. Et alors ce développement ?
Voilà. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de projets. Alors les barges que vous, dont vous parlez, ce sont des maisons flottantes. C'est un projet qui est un petit projet à l'échelle de ma société. Ce projet, il a été un peu mis en avant parce qu'on avait une belle image. Ce projet ne sera pas sur la Seine, mais il sera certainement à Blois et ce sera certainement un restaurant. Et je vous en parlerai bientôt.
Aha.
Voilà. Alors par contre, on fait des projets sur le bassin atlantique de logements en copromotion avec des entreprises qui ont envie de bien faire et avec lesquelles je me suis associée. Des gens comme Perle qui font l'usufruit locatif social ou bien encore Open Partners qui fait de la résidence gérée étudiante. Et avec ces personnes qui ont envie d'avoir une démarche au moins humaniste, nous concevons des projets qui ont la vertu d'être intéressants à la fois dans l'enveloppe et à la fois dans la programmation. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, c'est-à-dire de ne pas seulement vouloir bien faire sur l'enveloppe du bâtiment, mais à l'intérieur, quand on commercialise ou quand on crée la programmation d'un projet immobilier, d'aussi mettre des projets, des programmes qui sont vertueux. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire, bien à l'intérieur et bien à l'extérieur. Et je pense qu'on peut aussi faire beau. Alors là, c'est extraordinaire.
Mais si on est bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Pardonnez-moi cette petite comparaison. ce qui est intéressant également, vous avez travaillé pour des grands concours dans les métropoles. Oui. Aujourd'hui, vous sortez du champ strict de la métropole.
Oui.
Vous l'utilisez, et le marketing peut être responsable, en installant une maison flottante au pied du Louvre. Mais les exemples que vous avez cités, je crois qu'il y en a d'autres, vous vous intéressez aux villes moyennes et à la ruralité. Deux questions en une, pas forcément évidentes, mais quel regard portez-vous sur ce regain d'intérêt pour l'ailleurs que les grandes métropoles ? Et puis, comment est-ce qu'on peut trouver des bilans immobiliers à peu près viables, puisqu'il y a une concentration très très forte des investissements qui restent pour le moment fléchés vers les métropoles.
Alors c'est vrai qu'on a mis cette image de la maison de flottant de flot devant le Louvre, et ça c'était un exercice qui était intéressant parce que ça a permis aux élus auxquels on a montré le projet de se dire si c'est beau et si ça ne dénature pas le Louvre et si ça s'inscrit en finesse et en douceur devant le Louvre, alors même chez nous ça pourra s'inscrire délicatement. Donc ça c'était l'intérêt. Qui peut le plus, peut le moins. Pour le reste, mon sujet, c'est souvent de dire que faire écologique, ça peut être beau, et faire écologique, ça peut aussi ne pas coûter davantage. C'est du jus de cerveau pour moi, de à la fois faire beau et à la fois mieux faire. Souvent, quand on ne s'intéressait pas au sujet d'écologie, on disait « oui, mais alors dans l'immobilier, parce qu'il y a quelques années, ce qui nous intéressait tous, c'était de faire beau. Ah, mais vous faites beau, mais alors ça coûte plus cher. » Finalement, on se rendait compte qu'il y avait plein de façons de faire beau et il s'agissait de faire preuve d'un peu d'intelligence. Et c'est un peu la même chose pour l'écologie. Il s'agit de tordre les process. Aujourd'hui, on est dans une industrie, et c'est vrai que je ne vais pas mâcher mes mots, qui n'a pas envie de changement, qui est dans l'immobilisme. Parce que c'est très confortable de ne pas changer, de ne pas évoluer. C'est très confortable de travailler avec les mêmes entreprises. C'est très confortable d'utiliser du béton. Changer tout un process, c'est quelque chose qui est un peu difficile. On est sur des postures, et moi, c'est vrai que je préfère être dans de la position. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut utiliser des nouveaux matériaux, des nouveaux process. Je vous donne un exemple très simple. Solar Impulse, vous allez sur leur site internet. Ils ont pléthore de solutions intelligentes pour pouvoir fabriquer différemment et de façon plus consciente et plus responsable. Bon, voilà, je pense que c'est à la portée de tous et c'est jamais plus cher. Donc, il s'agit d'avoir la volonté, l'intention de bien faire. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'avais un projet en banlieue parisienne sur lequel je travaillais il y a quelques mois. Et puis, lors d'un rendez-vous, donc on travaillait sur une structure en préfabriqué modulaire bois et puis sur une façade avec des matériaux recyclés. Et vient le moment où il faut parler de la cage d'ascenseur. Et là, les bureaux d'études qui se tournent vers moi en me disant « Ah oui, mais là, tu comprends, là, on va faire la cage d'ascenseur en béton comme d'habitude. » Je dis « Écoutez, non, on ne va pas faire comme ça, parce que sinon, ça ne sert à rien. On va faire jusqu'au bout correctement. » Et là, j'ai été contrainte de dire « Bon, écoutez, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire le projet, parce que si c'est pour faire une cage d'ascenseur en béton, je ne vois pas trop l'intérêt. » Pour que 15 jours après, tout le monde revienne en disant « C'est bon, on a trouvé la solution, on va la faire en bois. » D'accord ? Donc, il faut un peu pousser, il faut tenir. Et quand on est maître d'ouvrage en ce moment et qu'on a des convictions, il faut s'y attacher et ne pas lâcher. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans l'opposition frontale et qu'on est dans une période de mutation. Et les périodes de mutation, elles demandent une forme de bienveillance. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas évoluer au même moment. Tout le monde n'a pas la capacité à comprendre ce qui se passe en ce moment. Et même s'il y a de l'intention de bien faire, ça n'est pas accessible pour tous. Donc il faut à la fois pousser tout le monde vers le haut en disant « Écoutez, d'une façon un peu ferme, il va falloir vraiment évoluer et ne pas se cacher derrière les labels, ne pas se cacher derrière des certifications et ne pas se cacher derrière des grands discours. Et en même temps, avoir cette bienveillance pour accompagner des acteurs qui ont envie de bien faire mais qui ne savent pas trop comment faire. »
Alors justement, vous faites au même titre que Mathieu, il y a 10 ans, figure de pionnière. Vous ouvrez la voie. Est-ce que c'est ça, au fond, pour vous, le moyen de massifier et de faire en sorte que ça fasse des émules, de montrer l'exemple avec bienveillance, avec celles et ceux qui ont envie d'être un petit peu en avance ou, en tous les cas, moins en retard, plutôt que d'imposer à tous des circonstances qui, probablement, vous parliez des matériaux, les difficultés d'approvisionnement, la raréfaction d'un certain nombre de ressources, va de toute façon mettre, y compris ceux qui sont immobiles, au pied du mur et les mettre en mouvement. C'est ça, c'est vous inspirez, vous êtes une influenceuse.
J'aimerais bien être une influenceuse dans l'immobilier pour que notre immobilier, au moins en France, soit construit de façon plus responsable. Ça serait fabuleux. La vérité, c'est que je pense qu'il faut avoir en ce moment une main de fer dans un gant de velours et que ça doit vraiment être ce qui doit guider notre action au quotidien. En tout cas, c'est ce qui, moi, me guide. Et en même temps, il faut aussi s'aider, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui ont envie de bien faire, avec des acteurs, et il y en a, des paysagistes comme Mathieu, des architectes qui ont envie de travailler différemment. Et moi, j'en rencontre tous les jours qui sont lassés de la façon dont ils font leur métier. Des bureaux d'études qui comprennent qu'il y a une nouvelle vague et qui ont envie d'en faire partie. Voilà, donc il faut agréger les volontés, agréger les compétences et y aller.
Alors, je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas langue de bois et je me permets une boutade. Vous citez souvent la construction bois que vous pratiquez par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, comme étant un peu l'archétype de réflexion bon ton en disant si on construit écologique, on doit forcément construire en bois. Et vous posez en faux par rapport à ça en disant il faut regarder les ressources locales. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de matériaux en fonction des sites que vous avez privilégiés dans le développement de vos projets?
Moi, je n'ai rien contre le bois, bien au contraire. Tous les matériaux naturels, je les adore, évidemment. La seule chose, c'est que faire des immeubles dans des grandes métropoles en bois, là où il n'y a pas de bois localement, il va falloir faire venir le bois d'ailleurs pour ensuite climatiser l'immeuble. Je dis que là, on est dans une situation qui est totalement aberrante et qu'il faut que dans notre métier, on retrouve un semblant de bon sens. Ce qui fait bon sens, c'est de voir quelles sont nos ressources locales. On est sur un territoire, le territoire français, qui est un territoire très riche. Et donc, regardons ce qui caractérise l'identité de nos territoires. Ça peut être la brique, ça peut être la pierre locale, comme c'est le cas près de Paris. On a on a Saint-Maximin qui peut nous fournir. Alors, les pauvres, je ne vais pas leur faire trop de publicité. Je ne sais pas où ils en sont en termes de ressources. Hein, mais il y en a d'autres partout. Près de Tours, il y a de la pierre également. On peut faire de la terre crue. C'est très à la mode. Alors, c'est pareil. C'est très à la mode, la terre crue.
Mais on ne peut pas la faire partout.
Mais évidemment, voilà. Alors, c'est bien. C'est bien qu'on parle de la terre crue, parce que pendant longtemps, ça faisait peur à tout le monde. On avait l'impression que l'immeuble allait s'effondrer s'il était en terre crue. Donc je trouve ça vraiment très bien qu'on puisse en parler. Mais pas qu'on en tartine partout, voilà, et qu'on se pose les bonnes questions tous ensemble. Le sujet, c'est aussi de faire participer les architectes à cette réflexion en leur disant, écoute, voilà, au lieu de te donner une carte blanche au démarrage du projet comme on a toujours fait, en les faisant travailler sur une esquisse et ensuite en leur disant, bah, tu comprends, ça va pas, il va falloir retravailler, et là on commence à faire ce truc qui est de monter les bureaux d'études contre les architectes, de dire aux architectes, voilà le cadre, la base, ça va être de pour toi de regarder quels sont les matériaux locaux. Et là-bas, ça va être pour toi de te mettre dans un cadre qui est de faire un projet absolument écologique. Et une fois que tu as ces incontournables, on te laisse exercer ta créativité. Mais il va falloir que tu tiennes compte de ça. Et en fait, moi, j'ai fait cet exercice avec les architectes qui ont vraiment envie de s'y plier et ne le voient pas comme une contrainte, une nouvelle façon de faire, dirigé par cette urgence qui est l'urgence climatique que nous vivons.
Urgence climatique, travailler en local et aussi, je vais faire un petit clin d'œil, la biodiversité, évidemment, on va y venir. Construire en pisé dans ma Loire natale, en Rhône-Alpes, vous remarquerez pour nos auditrices et nos auditeurs citadins qu'à côté des fermes, il y a souvent une mare et ça n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce qu'on repérait une source, très souvent, on creusait et on prenait la terre pour faire les murs en ajoutant de la chaux. Souvent un soubassement en pierre et de la paille dans le torchis. Et le trou qui était constitué servait de mare, les mares, éléments indispensables des écosystèmes, puisque ce sont autant de petites zones humides qui avaient une utilité pour abreuver le bétail, mais aussi pour constituer un point d'eau et de vie dans ces espaces. Alors justement, Laurane, après cette petite anecdote rurale, votre rapport au vivant, vous l'avez cultivé, si je puis dire, à la Compagnie de Phalsbourg. C'est quelque chose qui, à titre personnel, vous tient à cœur. C'est toujours très difficile de dire quel est son propre rapport au vivant. Mais comme vous êtes fortiche en réponse, je vous pose la question. Quel est-il ?
Alors, d'abord, je vais répondre, mais d'abord... je vais en choquer plus d'un, mais c'est très intéressant cette histoire de ferme et de mare. Pourquoi ? Parce que je pense que dans les prochaines années, la qualité et la richesse du foncier, ça sera plus la localisation, mais ça sera la qualité du sol. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur. Moi, j'ai fait l'acquisition récemment d'un terrain au Portugal, dont le sol est d'une richesse inouïe, et ça en fait toute sa richesse. Et alors... La façon dont je travaille ce projet, par exemple, est très intéressante, c'est-à-dire, et ça va vous montrer, de cette façon, je réponds à votre question, le lien très fort que j'ai avec le vivant. Je regarde où, avec un paysagiste local et un agriculteur local, où je peux cultiver sur le terrain, et là où je ne peux pas cultiver des choses très intéressantes, je construis. On ne peut pas faire ça partout, d'accord ? C'est OK. Donc ça va être très compliqué dans les métropoles, ça va être très compliqué en Île-de-France. Néanmoins, ça doit nous inviter à travailler différemment nos projets. C'est-à-dire que la place du vivant, elle soit centrale et que l'on bâtisse autour de ça.
Eh bien, c'est dit, le manifeste, il est extrêmement clair. Avant de conclure dans quelques minutes, je m'adresse à Mathieu. Mathieu, vous travaillez avec des acteurs publics, des acteurs privés, des particuliers, mais aussi vous avez côtoyé des acteurs de l'immobilier. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche développée par Laurane ?
Écoutez, je trouve ça magnifique et en même temps, je vois le chemin à parcourir parce que moi-même, en tant que paysagiste, je me retrouve confronté à des aberrations. Notamment un projet là récemment dans l'Ouest parisien où on a un bois protégé et on a une autorisation de construire sur une petite partie de la parcelle et comme d'habitude les entreprises arrivent avec leurs gros sabots et commencent à tasser le sol. Donc tasser le sol, ça veut dire le tuer, à abîmer les arbres, et là on a plusieurs arbres qui étaient censés être protégés qui vont être abattus. Et derrière, aucune sanction et absolument aucune conséquence. Et voilà, je trouve ça très intéressant de faire prendre conscience à tout le monde que les arbres, c'est pas juste un truc qui gêne sur un projet.
Alors, on va faire un petit instant pub pour vos deux jeunes pousses. Et puis, on va bientôt conclure. Pour retrouver toutes les informations sur LSRE, on va sur...
LSRE.space.
lsre.space. Pour Vélab,
vélab.pro, P-R-O.
Et vous pouvez aussi retrouver le site des boîtes à vélo en tapant les boîtes à vélo, dans tous les moteurs de recherche. Laurent, je vais vous laisser le petit mot de la fin avant de faire la fin des fins. C'est à vous.
Avec tout ça, bâtissons dans la joie surtout.
Voilà, dans la joie, kiss away, nous disaient les Rolling Stones. Donc Laurent, Mathieu, merci d'avoir accompli ce challenge de présenter votre activité et vos motivations en quelques minutes seulement. Soyons clairs avec nos auditeurs, nous nous connaissons bien, mais la bienséance m'oblige à vous vous voyez. C'est une question un peu vintage de respect pour vous qui nous écoutez. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, justement, nous espérons que ce format spécial vous aura donné envie de passer à l'action, par exemple en investissant dans un logement plus responsable ou en choisissant votre location en fonction de ces différents critères, et puis avec un endroit où garer votre vélo à assistance électrique pour arpenter la ville et la regarder autrement. Longue vie à nos jeunes pousses, bon vent à tous, soyons joyeux. Et cette émission a été réalisée grâce au concours d'une bande de Guéluron à la technique Théo. Et puis, cette émission n'aurait pu voir le jour sans la demande aussi saugrenue que stimulante de Sylvain et Olivier. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Natures urbaines, en partenariat avec les Jardins de Galie. À réécouter et télécharger sur Radio Imo et Radio Territoria.